Donc on peut dire que on pourrait dire que la parole faite papier, eh bien, précède et éclaire la parole faite chair, hein, le corps sacramentel du Seigneur, manifestant aussi ce qu'est un sacrement, c'est-à-dire un geste qu'une parole accompagne. Hein. Ce qui nous donne la spécificité chrétienne de tous les sacrements, c'est la parole biblique qui l'accompagne et qui en est on peut dire même le cœur. Hein. Le geste du baptême, il est expliqué et rendu réel par la parole « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur par la parole de la consécration, tirée de l'Écriture, etc. Donc, si l'unique pain de vie nous est communiqué par l'Écriture et l'Eucharistie, s'il provient simultanément donc de ces deux tables, alors se trouve justifiée aussi l'affirmation lapidaire de saint Jérôme, Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Je vous avais dit ça à propos de saint Jérôme. Donc, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc, d'où l'intérêt quand même de regarder la Bible. Moi, souvent, mes étudiants au séminaire, je disais, après tout, les Écritures, c'est compliqué, c'est confus, etc. Prenez le catéchisme, tout est ordonné. Enfin, c'est une blague. Mais, parce que, comme dit bien le concile, en fait, notre foi, elle repose sur un trépied, qui sont les Écritures, le magistère et la tradition. Donc la tradition qui à la fois va inspirer dans ses premières décennies les Écritures, parce que n'oublions pas, contrairement à ce que disaient les protestants, que l'Écriture, elle est née de la tradition. Hein. D'abord, la tradition orale des Juifs, qui s'est cristallisée à différents moments dans des écrits bibliques. Et puis, pour nous, même chose, ça a été la tradition orale, l'enseignement des apôtres, qui, à un moment ou à un autre, s'est condensé, cristallisé dans des écrits. Et à la limite, plus tardive est la mise par écrit des textes du Nouveau Testament, plus est assurée finalement la précédence de la tradition sur les Écritures, et plus ça renverse la position des protestants. Parce que c'est pas d'abord l'Écriture, puis la tradition, ça a été d'abord la tradition, puis l'Écriture, et puis une nouvelle tradition interprétative des Écritures, et voilà, et de la tradition non écrite, et qui va être confiée progressivement, enfin progressivement, dès le début en fait, au magistère des évêques, qui trouve son fondement d'ailleurs dans les Écritures et la tradition. Donc vous voyez, les trois en fait sont intimement liés. Et quelqu'un me faisait remarquer que pour traire les vaches, on s'assoit sur un trépied. Et que le trépied, c'est ce qu'il y a de plus stable qu'une chaise à quatre pieds, ou évidemment à deux. Donc il faut trois pieds pour avoir la plus grande stabilité. Et donc on a une stabilité vraiment, voilà, tripode. Et ça, c'est une belle. Alors, je continue mon introduction sur la Bible. Donc, vous voyez, pourquoi la Bible? Parce que finalement, c'est fondamental pour notre foi. Voilà. Et alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que la Bible? Donc, on a répondu un peu à la question pourquoi. Maintenant, il faut se demander quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et là aussi, l'analogie avec le Christ est assez éclairante. Et c'est encore une fois la même constitution à laquelle a travaillé Ratzinger qui nous l'explicite. Dans le numéro 13, là, l'autre c'était le numéro 21. Donc dans le numéro 13, on nous dit « Les paroles de Dieu exprimées en des langues humaines se sont faites semblables au langage humain, tout comme autrefois le Verbe du Père éternel, ayant pris la chair de la faiblesse humaine, s'est fait semblable aux hommes. » Donc, vous voyez, le Verbe se fait chair au moment, au kairos, là, au moment, le moment décisif, le moment favorable. Et le même Verbe va se faire langage parole humaine. Alors, avant, pour préparer l'incarnation, et ensuite pour l'accompagner et comment dire, l'expliciter en quelque sorte. Hein. Donc, et de même qu'on va accéder à la personne du Verbe par l'humanité dont il s'est revêtu grâce à l'incarnation, de même on accède à la parole de Dieu, c'est-à-dire ce même Verbe, par les paroles que des hommes ont prononcées sous l'inspiration divine, la motion du Saint-Esprit. Donc on accède, vous voyez, quand Saint Jean, là, dans sa première lettre, dit ce que nous avons touché, entendu du Verbe de Dieu, c'est celui qui a reposé sur la poitrine du Seigneur, il l'a bien touché, hein. Eh bien, nous, nous y accédons, alors, par les sacrements, mais nous y accédons aussi par cette même parole qui a retenti et qui a été mise par écrit dans la Bible. Donc, à l'incarnation du Verbe correspond l'inspiration divine qui a conduit à cet objet qu'est la Bible. Donc, on dirait que la révélation du mystère du Père s'opère dans la personne du Fils, devenu homme, dans ses gestes et dans ses paroles. Hein, il est le révélateur, en même temps qu'étant Dieu, il est le révélé. Hein, vous voyez, dans la révélation chrétienne, Dieu se révèle. Il se révèle comment? Par son Fils, par son Verbe, il se dit par son Verbe, qui est à la fois la médiation de la révélation, hein, le révélateur, mais du fait que ce Verbe, à la différence de ce que croyaient les Ariens et tous ces gens-là, est aussi Dieu, il est aussi le contenu de la révélation. Et il est à la fois le médiateur et le contenu de la révélation. Et comment? Eh bien, par ses paroles, par ses gestes et par toute sa personne. Et comment avons-nous accès au révélateur? Eh bien, par ceux qui ont été les témoins et qui ont reçu ces paroles. Vous vous souvenez, hein, de ce que disait ce que disait Saint Irénée à propos de Polycarpe, en disant qu'il avait encore les paroles de Saint Jean dans la bouche, parce qu'il les avait eues dans les oreilles avant, ou dans la lettre de Clément. En parlant des paroles de Pierre et Paul qui retentissaient encore dans leurs oreilles. Hein. Et ben, ces gens-là qui ont été les témoins du Verbe fait chair, on traduit ce même Verbe à travers les écrits qu'ils ont laissés, qui sont pour nous le Nouveau Testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Voilà, on peut dire que c'est dans la chair, on peut dire, d'un texte, apparemment semblable à tout autre texte rédigé par les hommes, comme finalement la chair du Christ était semblable à la chair de tous les autres ses contemporains, hein, et bien que se manifeste, tout en se dissimulant, justement, la vérité de Dieu. Et ça, c'est tout la question de l'interprétation. Enfin, toute la question de la révélation. Parce que dans la révélation, il faut pouvoir être compris quand on parle. Et pour pouvoir être compris, il faut parler le langage des gens à qui on s'adresse. Et du coup, il faut s'adapter. Comme disait Anselm Balthazar dans un gros article, il disait Gott redet als Mensch, Dieu parle en tant qu'homme. Donc, pour parler à des hommes, il faut parler un langage humain. D'où l'utilisation, l'inspiration prophétique qui va permettre à Dieu d'utiliser des êtres humains pour exprimer ce qu'ils auront perçu du mystère de Dieu dans un langage humain. Et justement, au moment où la préparation sera achevée, eh bien, au moment favorable, à ce moment-là, c'est le verbe lui-même qui va se rendre perceptible aux hommes. Mais comment? Ben, en se faisant homme lui-même. Hein. Donc c'est le mystère de l'incarnation. Donc Dieu va se faire semblable aux hommes pour pouvoir être perçu, pour pouvoir être intelligible. Et alors, autrement dit, comme je dis parfois dans des sermons, il va tamiser sa lumière aveuglante, éblouissante, avec l'abat-jour qu'est l'humanité du Fils, qui va tamiser la lumière divine pour qu'elle ne nous aveugle pas, mais qu'elle nous éclaire. Vous voyez, c'est exactement la question des icônes, en fait. Hein. Dans les icônes, on va essayer de tamiser la lumière divine dans une image qui soit assez éclairante, qui reflète quand même cette lumière aveuglante. Mais évidemment, elle ne peut pas être représentée, sinon elle aveuglerait. En plus, on n'a pas les moyens humains de le faire. Donc là, le Verbe va se faire homme, justement, pour pouvoir... dire avec justesse, enfin transmettre avec justesse la lumière divine, sans pourtant nous aveugler. Mais le problème, c'est qu'il va tellement bien réussir son coup, que la difficulté, ça sera précisément de remonter à cette lumière. Vous voyez ? Il s'est tellement bien fait homme qu'il va falloir découvrir à travers cet homme qu'il est aussi Dieu, qu'il y a plus. Qui a plus qu'un homme. Et ça, c'est tout le... Vous savez ce que dit Pascal dans une de ses pensées? Il dit, il y a suffisamment de lumière pour éclairer les impies et suffisamment d'obscurité pour les rendre... Enfin, suffisamment d'obscurité pour les excuser, suffisamment de lumière pour les rendre inexcusables. Donc, il y a assez... Saint Paul dit la même chose dans l'Épître aux Romains, vous voyez. Et toute la difficulté, ça va être justement de discerner le divin dans l'humain. Ben ce sera le grand problème des Ariens. Hein. Les Ariens, ils vont dire, en gros, bon, ben, c'est un homme un peu béni des dieux, béni de Dieu, adopté par Dieu, peut-être mis à un degré un petit peu supérieur. Et en fait, finalement, ils vont réinterpréter la nouveauté du Christ avec la vétusté de leur expérience vétérotestamentaire, en gros, en tout cas pour les juifs, c'est clair, ils en font un prophète, pas plus qu'un prophète. Donc les Ariens interprètent la nouveauté du Christ dans la vétusté de l'Ancien Testament. Et ça, c'est pas faire droit justement à la nouveauté du Nouveau Testament. Et c'est Saint Paul qui, le premier, prendra conscience que le Christ n'est pas le énième relecteur des événements fondateurs d'Israël, la sortie d'Égypte et tout ça, mais qu'il est celui qui précisément est celui que prépare justement tous ces événements. Donc il n'est pas le relecteur d'événements du passé qui serait fondateur, mais il est la fondation elle-même dont les événements du passé n'étaient que la préfiguration. Et ça, c'est un renversement total. Et c'est là qu'il dira, qu'il parlera de nouvelles écritures. C'est dans la première aux Corinthiens. Et c'est le moment où on va passer de la Bible, enfin disons des écritures, qu'on va avoir cette partition entre les écritures qui préparent l'événement fondamental qui va être ensuite, explicité par tout ce corpus qui va être celui des paroles et des gestes qui vont être consignés par écrit, qui seront les évangiles, et puis des interprétations de ces paroles et de ces gestes qui vont être tout le reste du Nouveau Testament, les actes, les épîtres de Saint Paul, etc. Et là, on a, et avec ça, on a notre construction bipartite de la Bible qui sera aussi la clé d'interprétation de tout le reste. Parce que c'est l'altérité entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui va nous donner la clé d'interprétation des Écritures. altérité qui avait été déjà un petit peu perçue par les Juifs à travers toutes les relectures qu'ils faisaient des événements du passé. Par exemple, le livre de la Sagesse, c'est une relecture de la sortie d'Égypte. Notamment avec ce beau passage qu'on a à Noël, là, vous savez, d'où medium silentium, là, alors qu'un silence enveloppait toute chose, soudain ta parole s'élança du haut des cieux, voilà. Et alors nous, on se dit, ah ben oui, c'est le Verbe qui s'incarne. Et en fait, non, c'est l'ange exterminateur qui dégringole sur l'Égypte. Et puis, donc voilà. Alors cette interprétation, cette analogie entre le verbe incarné et puis le verbe, on pourrait dire, fait papier, nous permet de nous garder de deux erreurs symétriques. De même qu'en christologie, on peut tomber dans le monophysisme, autrement dit, absorber l'humanité du Christ dans sa divinité, on l'a vu avec Saint Cyrille, et ainsi nier toute la consistance de cette humanité, ou dans l'arianisme, donc absorber cette fois-ci la divinité du Christ dans son humanité au point de la dissoudre totalement dedans. De même, en exégèse, on peut tomber soit dans le fondamentalisme, c'est-à-dire déclarer que chaque parole est divine et doit être prise au pied de la lettre. Là, on pourrait dire que c'est du monophysisme en christologie. Ou alors, on peut tomber dans le criticisme, ou le modernisme, et ne voir dans le texte biblique qu'une sorte de réflexion religieuse, humaine, sur un phénomène historique d'Israël et de Jésus de Nazareth. Et là, on serait dans l'équivalent, vous voyez, biblique de l'arianisme, hein, où finalement on réduit les choses à n'être que de l'humain. Alors c'est ce qu'on fait par exemple quand on a laissé trop la parole aux sciences sociales. Vous savez, dans les années 60, 70, il y avait toutes sortes de grilles de lecture, comme ça qu'on disait. Donc la grille de lecture marxiste, la grille de lecture psychanalytique, alors freudienne, jungienne, truc machin, etc. Donc il y avait plein de grilles de lecture, et on finissait, qui étaient réductrices, c'est-à-dire qu'on finissait par n'interpréter qu'à la lumière de notre intellect quand même limité. Alors on réduisait justement le surplus transcendant à juste à l'apparence ou alors à son lieu d'apparition, comme dirait Heidegger, là, son apparoir, comme il dit. Parce que le terme est pas mal dit. Hein, et alors, à ce moment-là, on grattait l'essentiel, quoi. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, si on tombe dans le fondamentalisme ou dans le criticisme, on rate la vérité du Christ, et donc on rate aussi la vérité de Dieu, puisque le Christ est celui qui nous révèle Dieu. Alors, donc on rate tout. Alors, pour terminer là-dessus, la Bible est donc un livre, et d'ailleurs le mot Bible, voilà, ça vient du grec « e-biblos », qui à l'origine signifie l'écorce intérieure du papyrus. Pour être plus exact, on pourrait dire. Donc vous voyez que c'est bien, ça signifie bien la matière. Hein. Et pour être plus exact, on peut dire que mieux qu'un livre, c'est même une bibliothèque. Hein, c'est une collection de livres. Oui, voilà. Qui du coup pour nous chrétiens va s'organiser en deux blocs d'inégale longueur et aussi d'inégale valeur, qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette dénomination souligne donc qu'il y a un rapport de secondarité entre l'un et l'autre testament, le nouveau assumant l'ancien, sans en supprimer la lettre, donc en lui laissant sa particularité. Et c'est cet ensemble-là qui nous est donné dans sa dualité, mais une dualité, vous voyez, où il y a un ordre, qui nous est donné comme source permanente de la foi. Autrement dit, le catéchisme du Concile de Trente n'annule pas la foi, n'annule pas la Bible, pas plus que le catéchisme de 1992 ne supprime non plus la Bible. Parce que le catéchisme nous dit des choses qui sont l'explicitation d'une parole vivante, hein, dont dit l'Épître aux Hébreux, plus tranchante qu'un glaive à deux, enfin plus coupante qu'un glaive à deux tranchants. Alors, bon, certes, les énoncés dogmatiques sont parfois tranchants, hein, aux yeux des progressistes parfois trop, mais ce n'est pas une parole aussi vivante que la parole de Dieu, hein. En général, la parole de Dieu convertit plus facilement que les paragraphes du catéchisme romain. Bon, bah, du coup, c'est un peu cet ensemble dont on va essayer d'inventorier les richesses. Et du coup, je vous propose d'abord d'étudier la Bible comme un objet matériel, et puis comme support de la révélation de Dieu, avec la clé de l'interprétation qui se trouve essentiellement chez les pères de l'Église. Donc on reviendra au Père à travers la lecture de la Bible.